Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bonjour à tous, bienvenue à l'écoute de Mélomanie, le magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Merci d'être fidèles au rendez-vous. La saison des concerts a donc repris son rythme habituel après la petite coupure qui suit les fêtes de fin d'année et de nombreux événements musicaux ont eu lieu et auront lieu les jours et les semaines qui viennent. La raison d'être de cette émission est de les annoncer, de les présenter et de les commenter, tâche à laquelle nous allons nous atteler avec ceux qui me font l'amitié d'y participer. Ils ont pour nom Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi, et Robert Pénavert, l'autre cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour les sites Actu Toulouse et Culture 31, ainsi que pour les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi. Tous les trois, nous sommes très heureux de recevoir l'invité d'honneur de cette émission, l'organiste Aimeran Rollin, directeur artistique du Festival de Rocamadour, qui connaîtra sa 15e édition du 15 au 26 août prochain dans la cité mariale lotoise. La programmation vient tout juste d'être dévoilée. Elle est prestigieuse et de grande qualité comme on pouvait s'y attendre. Nous allons vous la présenter avec Aimeran Rollin plus tard dans cette émission. Il va falloir patienter un peu, ce sera en seconde partie. Pour l'instant, nous allons revenir sur le concert auquel nous avons assisté la semaine dernière. C'est parti pour notre rubrique Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
C'est le dernier concert en date de l'Orchestre National du Capitole qui va occuper cette rubrique. Il a été donné vendredi 10 janvier à la Lograin et il était sous-titré sur un air andalou. Les musiciens et les compositeurs de France et d'Espagne étaient donc à la fête lors de cette soirée où l'ensemble symphonique toulousain avait été placé sous la direction du chef catalan Josep Pons et où il a accompagné le pianiste espagnol Javier Perianès au programme des œuvres du français à moitié basque, Maurice Ravel et de l'andalou Manuel de Falla. Voilà pour le décor. Nous étions tous les deux dans la salle, Serge. Alors, quelles ont été vos impressions et vos émotions durant ce concert où il valait mieux aimer la musique française et espagnole du début du XXe siècle ?
Oui, et d'ailleurs, c'est un concert qu'on aurait pu sous-titrer « Ravel et l'Espagne », puisqu'il y avait plus de Ravel que de musique espagnole. Ouais. Donc, avec en première partie, bon, à la fois l'une des œuvres fondamentales pour laquelle l'Espagne est en sous-titre, hein, « Rhapsodie espagnole », donc, puis le fameux concerto en sol, toujours de Ravel, et enfin l'Albolada del Gracioso, c'est-à-dire l'Aubade du Bouffon, en début de deuxième partie, en fait. Hein. Donc, on a eu droit, évidemment, à des visions à la fois ibérique et française de Josep Pons, qui est vraiment un chef tout à fait récurrent à la tête de l'Orchestre National du Capitole.
Ah oui, je ne saurais pas dire depuis combien d'années on le voit à Toulouse. Ah, oui, d'abord, oui, il vient tous les ans, au moins une fois.
Au moins une fois.
Au moins une fois, si ce n'est pas deux, parfois. Oui, et puis, il y a longtemps maintenant.
Exactement. Et alors, il adore l'orchestre et les musiciens l'adorent. Donc, tout va bien.
Ça, je peux le confirmer.
Ça se passe bien, donc tout est parfait. Alors, en fait, il s'agissait d'un programme qui établissait un pont, une espèce de pont culturel entre cette vision ravelienne de l'Espagne, hein, qui est quand même proche de l'authentique, hein, et son expression générique, oui, à travers Manuel de Falla et son ballet, donc le Tricorne. Enfin, en tout cas, les deux suites orchestrales du ballet. Alors, en première partie, tout cela s'est ouvert sur le prélude à la nuit de la Rhapsodie espagnole que Josep Pons a pris dans un tempo extrêmement retenu, très lent, très doux, très mystérieux en quelque sorte. Hein, donc, avec des couleurs nocturnes, comme il se doit, hein, et comme des murmures. Hein, c'était très particulier, cette manière d'aborder l'œuvre. Ensuite, les choses se sont animées, évidemment, dans la Malagueña et dans la Banera. Bon, et puis la feria finale, alors là, ça a brillé de tous ces feux et de toutes les couleurs chatoyantes dont on sait que l'orchestre est capable.
Oui, alors justement, on va parler maintenant du concerto en sol, puisque c'était l'œuvre qui suivait. Et moi aussi, je trouvais qu'il avait pris ce concerto, que j'ai entendu très souvent, comme beaucoup d'autres, à la Lograin, mais également ailleurs, au disque ou autre, par des pianistes et des chefs très différents. J'ai trouvé que le tempo était vraiment lent. Et j'ai trouvé que ça manquait un peu d'intensité, de relief, d'éclat par moment. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, il a privilégié la poésie.
Ouais.
dans ce concerto. Alors d'abord, il faut quand même préciser que Javier Pelliánes, c'est un pianiste qui a reçu quand même les conseils de grands maîtres comme Richard Good, Alicia de la Rocha, qui n'est pas n'importe qui dans ce qui concerne la musique espagnole, et même Daniel Barenboim. Alors c'est vrai qu'il n'a pas favorisé l'éclat et la virtuosité, mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la rondeur de son toucher. Il n'a pas un toucher percutant, un toucher très rond,
très joli son, ça,
très lumineux, oui, un son magnifique, des couleurs splendides, des phrases tout à fait originaux, c'est très personnel la manière dont il a joué ce concerto. On l'entend très rarement comme ça, même je crois ne l'avoir jamais entendu jouer de cette manière-là.
Bien toutes les notes, c'était, oui,
mais,
c'était
avec, avec finesse, et poésie. Et donc, moi j'ai été en tout cas très ému par l'ouverture de l'adagio. Assai. La cadence qui ouvre ce concerto, qui est d'une poésie extraordinaire.
C'est la tendresse même, ce mouvement.
Ah, mais là, c'était une espèce de confidence qu'il faisait, avec des pianissimi, mais qu'on pensait pas possible au piano, donc il a fait des choses tout à fait formidables. Et le final, là, il a pris de l'éclat, hein, puisqu'il a même bien souligné les allusions au jazz et au ragtime, hein, que le concerto renferme, donc, surtout dans ce final. Et puis, comme il a été très applaudi, il a évidemment offert un bis, et dans le bis, on n'a pas vraiment aller dans un monde différent puisqu'il a joué la danse rituelle du feu extraite de l'autre ballet de Manuel de Falla, L'amour sorcier, et donc c'était la fin de cette première partie. Bon, intéressant, mais vraiment hors norme.
Oui, effectivement, ils nous ont proposé quelque chose de différent, ça c'est certain, auquel moi j'ai pas complètement adhéré, mais bon, encore une fois, moi j'ai dans l'oreille les versions de, évidemment, de Michelangeli et Célie Bidache, de Samson François, dirigé par Kluytens, et puis quelques autres, Marc Targerich avec Abado. On l'a tellement entendu, ce concerto en sol.
Oui, brillant. Voilà. C'est un concerto brillant, d'ailleurs. D'ailleurs, bizarrement, qu'il a composé Ravel en même temps que le concerto pour la main gauche.
Qui
lui est totalement contemporain. Qui est sombre, qui est dramatique. Oui. Donc vraiment, ce sont deux œuvres complètement opposées.
Bon, les pianistes, je me rappelle quand François-René Duchâble était venu dans cette émission, lui, il avait dit que c'était un petit concerto, mais il disait ça en tant que pianiste, évidemment.
Oui, c'est un concerto
pour orchestre, selon lui, ce que beaucoup d'autres pensent, cela dit.
Oui. Et donc, dans la deuxième partie s'est ouverte également par une œuvre de Ravel, l'Albolar del Gracioso, et là aussi, Joseph Pons l'a joué, en a fait une sorte de crescendo. C'est parti de manière très douce, et puis jusqu'à la fin, où vraiment les couleurs éclatent, hein, vraiment c'est magnifique. Alors je voudrais, excusez-moi, revenir sur le concerto, parce que ce concerto n'est pas simplement virtuose pour le pianiste, mais aussi pour les solistes de l'orchestre.
Ah,
il y a des solos redoutables, qui font partie d'ailleurs des grands morceaux de concours pour les musiciens d'orchestre, en particulier la trompette qui ouvre le concerto, et là Hugo Blachère fait ça de manière magnifique, le solo de corps terrible à jouer,
et avec Jacques Delplan, on est à peu près sûr,
puis tout le basson,
le hautbois
magnifique, le cor anglais, vraiment là on a eu de très belles performances de la part des musiciens. Donc on retrouve ces qualités dans la pièce de Ravel, hein, cette aubade du bouffon là aussi très belle, avec là ce crescendo, ce final très enlevé, voilà. Donc c'était une belle et très personnelle vision de Ravel à laquelle on a assisté. Et puis ensuite on a eu alors l'origine en quelque sorte ibérique, l'authenticité ibérique, puisque il a dirigé Joseph Pons les deux suites du Tricorne, qui finalement sont un peu courtes, on est un peu frustré de n'entendre que les deux suites, ça fait à peine 20 minutes, hein, donc...
Oui, c'est pour ça qu'on ne pouvait pas mettre une première partie Ravel et une seconde partie Fayard.
Et là aussi, finalement, c'est une volonté de sa part. On a assisté à un crescendo progressif, tout à fait maîtrisé. Avec, moi, j'ai bien aimé les petits éléments ironiques, la truculence du propos par moment, dans certaines danses de ce Tricorne. Et énormément de nuances, il a exigé de l'orchestre. Alors, je sais qu'il l'a exigé de l'orchestre, puisque j'ai assisté à des répétitions. Et il a énormément travaillé sur les nuances, sur le rubato, sur des petits détails. Il leur a fait répéter de multiples fois des petits passages très courts. Donc, vraiment intéressant. Et puis, bon, avec l'achèvement de ces deux, avec la danse finale tout à fait rutilante.
Là, Lohengrin était pleine, vraiment pleine, très enthousiaste. Et on sent que Joseph Pons est toujours très attendu à Toulouse, très apprécié.
Oui.
Alors, comme l'Espagne et les musiciens espagnols étaient finalement les principaux invités de cette soirée, nous allons leur faire honneur en écoutant Javier Pelliánes. Il a joué en bis la danse rituelle du feu de Manuel de Falla. Eh bien, la voici de nouveau sous les doigts du pianiste espagnol. Thank you. La danse rituelle du feu, pièce extraite de L'amour sorcier, ballet composé par Manuel de Falla. Elle a été jouée ici par Javier Perianes, qui l'a donnée en bis vendredi dernier à la Logrin. Et je ne doute pas qu'on reverra le pianiste espagnol à Toulouse dans les prochaines années. Ce sera avec plaisir en ce qui me concerne. Il y avait aussi un concert du duo Thibaut Garcia-Christian-Pierre Lamarca mardi dernier à Saint-Pierre-des-Cuisines pour le compte de la saison des grands interprètes. Compte tenu du copieux programme de la seconde partie de l'émission, nous ne reviendrons pas dessus aujourd'hui, mais rassurez-vous, nous en parlerons la semaine prochaine parce que ces deux musiciens nous ont fait le cadeau d'une très grande et belle soirée de musique. Ce fut vraiment un magnifique concert. Nous verrons donc ça dans une semaine parce que maintenant, c'est le prochain festival de Rocamadour et sa programmation qui vont longuement nous occuper en compagnie d'Emeran Rollin. Petite pause et l'on se retrouve dans quelques secondes sur Radio Présence. A tout de suite.
Mélomanie. L'agenda.
La seconde partie de Mélomanie avec Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Robert Pénavert, l'autre cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour les sites Actu Toulouse et Culture 31 ainsi que pour les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi. Et avec l'invité d'honneur de cette émission, Emeran Rollin, directeur artistique du Festival de Rocamadour, dont la 15e édition a lieu cette année du 15 au 26 août. La programmation est très dense avec de nombreuses et belles propositions. Nous allons nous y plonger avec vous, Emeran Rollin. Avant, sans faire à proprement parler un bilan de la précédente édition, je voulais que vous nous disiez un mot de ce qui avait été la grande nouveauté du Festival 2019, le concert en plein air, sous les étoiles, dans la vallée de l'Alzou, pour ceux qui connaissent, c'est au pied de la cité médiévale. Il avait été donné par Renaud Capuçon et les Lausanne Soloistes, c'était un pari. Est-ce qu'il a été concluant et est-ce que le public a été au rendez-vous le soir du 15 août l'année dernière ?
Déjà, merci Eric Dupri de me recevoir aujourd'hui. 2019, c'est vrai que c'était notre grand challenge parce que dans l'évolution du festival, la basilique de Rocamadour, qui est un très bel endroit avec une acoustique incroyable, contient 400 places. Et c'est vrai que les grandes soirées étaient bien complètes. Et puis... ce canyon de l'Alzou, cette cité sacrée, la valorisation complète du patrimoine sacré de Rocamadour, c'est quelque chose qui nous trottait dans la tête depuis pas mal de temps. L'ouverture de cette scène extérieure a vraiment créé un moment, je crois, absolument magique. Avec Renaud Capuçon, les trois concertos pour violon de Bach et la sérénade de Tchaïkovski, c'était vraiment un très beau moment. Ça a été difficile à organiser, il faut pas se le cacher. C'est toujours des grands challenges, surtout que nous, le Festival de Rocamadour, on était toujours en intérieur précédemment et qu'on n'avait pas cette habitude du concert en plein air. Un peu de stress pour savoir s'il allait faire beau ou pas beau, évidemment. Ça. Mais au final, on est vraiment ravis parce que il y a beaucoup de personnes qui nous ont aidés à préparer cette soirée, notamment les services de l'État, la gendarmerie, les pompiers. Tout le monde y a mis vraiment beaucoup du sien pour faire en sorte que cette soirée soit une réussite. Là où on a été satisfait, c'est qu'on a accueilli 1650 personnes, c'est-à-dire 4 fois la basilique. Voilà, pour une soirée, donc voilà, on va dire que le challenge a été relevé.
Le pari a été gagné, et puis aussi, il faut en parler, à la satisfaction des musiciens aussi tout de même.
Oui, c'était aussi un peu pour nous, on savait pas, on a dû choisir un prestataire pour monter une scène, le son, la lumière, et c'est vrai que Renaud Capuçon et ses musiciens ont été vraiment ravis du son, ravis du lieu, à tel point que peut-être qu'il reviendra très bientôt.
On va y venir à tout ça, mais pourquoi j'ai souhaité vous donner l'occasion de vous exprimer sur ce concert en plein air de l'année dernière, c'est que justement, l'essai est ici concluant que cette année, vous avez décidé d'ouvrir l'édition 2020 avec un grand concert en plein air au même endroit et ce sera de nouveau le soir du 15 août. Alors à ce propos, le festival avait commencé l'année dernière le 5 août pour se prolonger par séquence, tout de même pas en continu jusqu'au 26. Cette année, vous avez choisi de resserrer la programmation sur 12 jours, donc du 15 au 26 août et là ce sera du non-stop. Est-ce que c'était dans le but de la densifier ou est-ce que c'était pour ouvrir symboliquement la 15e édition le 15 août ?
Oui, alors les raisons sont diverses et variées, mais on va dire que la principale était que notre volonté, c'est d'être un festival. Un festival, c'est un lieu où on accueille des festivaliers. Et finalement, si on remonte pas l'année dernière, mais les années d'avant, on s'était retrouvé avec des concerts tous les 2-3 jours et il n'y avait pas
d'ambiance
festival. L'année dernière, on a fonctionné, je ne sais pas si vous en souvenez, par séquence de dates où on a fait 5-8 août, 15-19 août. Et donc, il y avait des semaines entières où on avait avait plus de concerts.
Il y avait une vraie coupure.
Et puis finalement, Rocamadour, c'est aussi un lieu où il se passe énormément de choses l'été. Beaucoup de visites, énormément d'activités. Et ça devenait difficile, vu l'ampleur que le festival a pris, l'exigence aussi artistique des artistes qui demandent vraiment des grands créneaux de répétition. On ne pouvait pas leur offrir ça dans la basilique, parce que quand il y a 10 visites par jour dans ce lieu-là et qu'on dit, bah, nous, on a besoin de 3 heures de répétition, très concrètement, c'est compliqué. Donc, il y a ces deux choses. À la fois, le fait de se dire, bah, on commence à partir du 15 août, donc on laisse à partir de cette date-là vraiment la place au festival. Et la deuxième chose, c'est de se dire, voilà, on veut que les festivaliers viennent au festival, que les gens se disent, venons 3 jours, venons 4 jours, parce que pendant 4 jours, en fait, on peut assister à 15 manifestations, finalement. Donc, c'est la raison. Et il se trouve qu'on s'est dit du 15 au 26... que le maire de Rocamadour m'a dit qu'il voulait qu'on garde la date du 15 pour le grand concert en plein air et qu'il voulait qu'on le renouvelle. Et donc finalement...
Finalement, concert d'ouverture le 15 août, toujours pareil, dans la vallée de l'Alzou, au pied de cette superbe cité mariale de Rocamadour. Quelle est la formation qui aura l'honneur ou la lourde tâche, je ne sais pas comment il faut dire, d'ouvrir le festival 2020?
Alors c'est un ensemble qu'on n'a jamais reçu pour l'orchestre, puisque c'est l'ensemble Mathéus, dirigé par Jean-Christophe Spinozzi. Ils seront accompagnés avec le chœur de chambre Mélisme, dirigé par Gilles Dapingier, qu'on a reçu l'été dernier au festival, puisqu'ils étaient dans la messe en ut de Mozart avec Sabine Neuviel, on s'en souvient. Donc ça sera Jean-Christophe Spinozzi qui dirigera le Messie de Handel. Grand oratorio vraiment phare, qui comprend des extraits qui sont connus de tout le monde, dont l'Alléluia. Et c'est vrai qu'on ne l'avait jamais programmé dans le festival, cette œuvre. Et je pense que la majesté de l'œuvre, le décor naturel qui entoure notre scène en plein air, va vraiment faire qu'on va ouvrir cette 15e édition par un moment grandiose.
Ouais, je pense que c'est vraiment idéal d'avoir choisi cette œuvre pour ouvrir le Festival 2020. Alors ce Messie de Handel, comme c'est toujours un plaisir de l'entendre, et pour illustrer le programme de ce concert d'ouverture du 15 août, voici le célèbre Run to Us, A Child is Born, interprété par l'ensemble Mathéus sous la direction de Jean-Christophe Spinozzi. For Unto Us A Child Is Born, extrait du Messie de Handel, interprété par l'ensemble Mathéus, dirigé par Jean-Christophe Spinozzi. Voilà donc l'œuvre et la formation qui ouvriront cette 15e édition lors du concert en plein air du samedi 15 août à 21h30. Et cette soirée d'ouverture est le premier des grands rendez-vous du Festival 2020, ce que vous appelez les grandes soirées. Il va y en avoir 7 autres jusqu'au 26 août. Et dès le dimanche 16 août à 21h, à la Basilique Saint-Sauveur, vous proposez le très beau Requiem de Durufler, interprété par l'ensemble l'ensemble Dulci Jubilo, fondé et dirigé par Christopher Gibert. C'est une jeune et brillante formation de notre région que soutient le festival depuis déjà quelques années, il me semble, Aymeric Rollin.
Oui, on les a pas mal aidés à leur début. Je crois que leur premier concert, c'était en 2013. Au départ, c'était un ensemble mélangeant amateurs et professionnels, tous issus de la fac de musicologie à Toulouse et du conservatoire. Et ils sont venus 3 années d'affilée. Christopher est mon collègue organiste à Rocamadour. Aujourd'hui, il est professeur chef de chœur au conservatoire de Montauban. Et depuis l'année dernière, il a eu la volonté vraiment de professionnaliser cet ensemble. Et on s'est dit avec l'équipe artistique que c'était le moment de continuer à lui donner un petit coup de pouce. Il n'était pas venu depuis 2015. Hein. On l'a aidé en 2013, 2014 et 2015. Et là, voilà, il nous a proposé ce programme qui mélange aussi 3 poèmes d'Eskech et le Timor et Trémor de Francis Poulenc. Francis Poulenc qui est cher à notre cœur, évidemment, à Rocamadour. Et puis le Requiem de Duruflé. Il faut dire aussi que ce qui nous a intéressé, c'est que le Requiem de Duruflé, c'est une œuvre où l'orgue n'est pas qu'un accompagnateur. Il n'est pas là juste pour accompagner le chœur, il est vraiment écrit par Duruflé comme un instrument soliste. Sur plein de moments, il y a vraiment des dialogues avec le chœur. Et comme on a fait des travaux sur l'orgue de Rocamadour, qui n'est pas si vieux que ça, puisqu'il a été construit en 2013, c'est un instrument tout neuf, mais l'année dernière, on a fini l'orgue. Et on a rajouté notamment le plan de boîte expressive avec des ondulants, etc. Et là, on se disait, bon, il faut faire entendre le Requiem de Duruflé avec les nouvelles couleurs sonores de l'orgue. Et c'est pour ça que quand il nous a proposé ça, on s'est dit, voilà, c'est parfait.
Maurice Duruflé, autre organiste et compositeur, donc comme l'est Christopher Gibert, qui a composé un Stabat Mater qui a fait l'objet d'un CD avec cet ensemble, Dulci Jubilo, et qui, je crois, a été vraiment salué par la critique.
Oui, et on est très heureux de ça, puisque le magazine Classica leur a décerné un 5 étoiles, c'est-à-dire vraiment une qualité de disque excellent. D'autant plus que cette œuvre, le Stabat Mater, c'est le festival de Rocamadour qui l'a commandé en 2015, et on l'avait créé en création mondiale en clôture du festival 2015. L'aventure a fait qu'ils l'ont enregistré donc quelques années après au Temple du Salin ici à Toulouse et le disque a été vraiment apprécié. C'est un très beau projet.
Avec des chanteurs qu'on connaît bien à Toulouse pour les entendre assez souvent avec d'autres formations comme Clémence Garcia, comme Philippe Estef, qui sont issus du conservatoire à rayonnement régional de Toulouse. Voilà, et donc le lendemain, toujours à la Basilique Saint-Sauveur à 21h, c'est la pianiste Anne Kefelec qui donne un récital d'œuvres de Haydn, Mozart et Beethoven, que du classique donc, avec ce qu'on appelle la première école de Vienne. Anne Kefelec, elle, on l'a déjà entendue à Rocamadour, un lieu et un festival qu'elle semble beaucoup apprécier.
Oui, c'est vrai qu'elle est venue donc en 2017 sur un récital Bach et la rencontre avec le public et avec moi aussi, puisque j'étais dans le public, a été assez bouleversante. Hein, et c'est une artiste qui est quand même une pianiste assez incroyable, qui joue extrêmement bien, qui a une très très belle musicalité, qui en plus de ça, humainement, elle est absolument fabuleuse. Moi, j'ai eu la chance en 2017 d'aller la chercher à la gare de Brive, de la ramener. Donc à chaque fois, c'était 1 heure de voiture avec elle, les discussions passionnantes. Et je me suis vraiment dit, mais ça, c'est vraiment une artiste que je ferais revenir au festival, parce que j'avais vraiment ce désir de la réentendre et j'ai pas pu attendre plus longtemps que de la programmer en 2020. Surtout qu'elle va proposer dans le programme la première et la dernière sonate pour piano de Beethoven, qu'elle appelle l'Alpha et l'Oméga. Dans cet anniversaire Beethoven, je pense que c'était important pour notre public de leur faire découvrir la première et la dernière. Voilà.
Et puis je me disais aussi que la Vierge Honore de Rocamadour, sauf erreur de ma part, est la protectrice des marins.
Oui, tout à fait.
Et pour une Bretonne, fille de ce grand écrivain maritime qui était Henri Kefelec, je pense aussi que c'est un peu particulier de jouer dans cet endroit avec ce piano juste à côté de la Vierge Noire dans la Basilique Saint-Sauveur. Donc programme Haydn, Mozart, Beethoven, alors 3 compositeurs qu'elle maîtrise et qu'elle a exploré beaucoup, parce que c'est aussi une enseignante Anne Kefelec. Il n'y a pas de masterclass, il y a juste un concert, hein, je le précise. Alors on va en profiter pour écouter Anne Kefelec dans du Mozart. Elle interprète ici la fameuse sonate à la Turca, le mouvement Andante Grazioso. Thank you. Le mouvement Andante Grazioso de la sonate à la Turca de Mozart, joué par Anne Kefelec, qui donnera donc son récital Haydn, Mozart, Beethoven lundi 17 août à 21h à la Basilique Saint-Sauveur. Et le mardi 18 août, même endroit, même heure, un des grands moments de ce festival 2020, vous allez y accueillir pour la première fois William Christie et les Arts Florissants. Il y a longtemps que vous souhaitiez les faire venir, que vous les pistiez.
Oui, c'est un très bel ensemble qui vient de fêter là au mois de décembre dernier ses 40 ans. C'est un programme de petits motets français, Campra, Couperin, Charpentier, enfin que de la musique qui est absolument incroyable, qui sera chanté par Reinhold von Mechelen, qui est venu au festival aussi déjà avec son propre ensemble à Nocte Temporis. Je suis très heureux de pouvoir les accueillir parce que c'est vrai que William Christie, c'est quand même une référence dans le monde du baroque depuis 40 ans et surtout dans ses compositeurs, puisque c'est lui-même qui a construit ce programme-là en se disant, voilà, ces petits motets français, c'est un peu toutes ces œuvres que j'affectionne depuis 40 ans et qu'il a regroupé dans un programme pour donner ça. Donc ça va être que des moments et des œuvres qui vont nous émerveiller, je pense.
Probablement un des grands moments du Festival 2020, que la venue des Arts Florissants pour la première fois à la Basilique Saint-Sauveur de Rocamadour. On n'entend pas souvent du André Campra, en tout cas dans cette émission, alors nous allons saisir l'occasion. Voici le motet Insere Domine, interprété bien sûr par l'ensemble des Arts Florissants de William Christie. Insere Domine, motet d'André Campra, interprété par les Arts Florissants de William Christie, une des œuvres au programme du concert qu'ils donneront mardi 18 août à 21h à la Basilique Saint-Sauveur, où l'on pourra aussi entendre des pièces de Couperin et Charpentier. Le grand concert suivant est programmé quelques jours après, ce sera le samedi 22 août, mais pas Rocamadour, Aymeric Rollin. Là, vous allez proposer au public la vie de château et même le Louvre, enfin, les musiciens du Louvre.
Oui. J'adore. Les musiciens du Louvre qui seront au Château de la Traîne, qui est un très bel endroit, un relais château, restaurant étoilé Michelin, qui se situe en bord de Dordogne, de la rivière, sur la commune de La Cave. C'est entre Rocamadour et Souillac. Des pièces orchestrales, évidemment, mais aussi le Nisi Dominus de Vivaldi. Les musiciens du Louvre, on ne les présente plus, évidemment. Là, ils viennent en petite formation. Ils seront une dizaine de musiciens pour un moment assez intime. La jauge, c'est quand même 200 personnes, mais qu'en plein air, dans les jardins du château. Jardin qu'on a pu apprécier ensemble l'été dernier.
Oui, alors vraiment, moi, je peux en parler parce que j'ai pu découvrir le lieu l'an dernier. Alors là, c'était l'ensemble Jupiter qui s'était produit, l'ensemble de Thomas Dunford avec la chanteuse Léa Descendre. C'était du Vivaldi. Et dans ce cadre extraordinaire, on est un peu hors du temps. Il y a un décor incroyable au-dessus de la Dordogne. Autour, c'est la nature, il y a la forêt, il y a des prés, puis il y a ces jardins, la française, splendide. Donc avec une jauge augmentée, parce que l'an dernier, c'était 80 personnes à peu près, c'est vraiment très très intime. Là, vous avez décidé d'accueillir un peu plus de public.
Oui, parce que c'était la première année qu'on faisait un concert en plein air au Château de la Traîne, puisque l'année précédente, c'était une soirée Rossini avec dîner gastronomique, c'était à l'intérieur, puis en plus c'était en octobre, c'était pas pendant le festival.
Ah oui.
Et c'est vrai que pour le château, se dire on va accueillir 80 personnes alors qu'on a le restaurant, enfin voilà. Là, ils se sont rendus compte et on s'est rendu compte qu'on pouvait aller jusqu'à 200 personnes, que ça ne gênerait pas ni les personnes qui vont au restaurant, ni les personnes qui dorment à l'hôtel, que tout ça pouvait bien se cumuler. Donc on est très heureux parce qu'on a la place d'accueillir 200 personnes dans les jardins. Et puis surtout, ce que la propriétaire a accepté, c'est qu'en cas de pluie, eh bien, le lieu de repli soit à Souillac, à 10 minutes de route, c'est-à-dire qu'elle prend le risque que le concert n'ait pas lieu dans son château en cas de pluie, alors qu'avec 80 personnes, on pouvait se replier dans la petite chapelle qui est dans les jardins du château. À 200, on ne peut pas.
Les musiciens du Louvre, dans les jardins du château de la Traîne, samedi 22 août à 19h30, et puis le lendemain, dimanche 23 août à 21h, là on revient à Rocamadour, à la Basilique Saint-Sauveur, et là aussi c'est le retour d'une formation qui est déjà venue dans le festival, le concert spirituel, et ça va être un moment vraiment particulier, puisque l'ensemble fondé et dirigé par Hervé Niquet va donner la messe à 8h d'Orazio Benevolo. Le génie oublié, c'est le sous-titre de ce concert. Alors là, il faut que vous nous présentiez le compositeur et son œuvre, parce que je doute que beaucoup de nos auditeurs le connaissent.
Bah oui, moi je le connaissais pas avant que je découvre la création de ce programme qui était en ouverture du festival de Radio France, je sais plus en quelle année, c'était il y a peut-être 2 ans, à la Basilique Saint-Germain de Pibrac. Benevolo, compositeur du début du XVIIe siècle, qui était maître de chapelle au Vatican. Il a écrit une messe à 8h, ce qui est quand même, quand on imagine ça, on se dit c'est absolument démentiel. Hein,
bah, apparemment, c'était sa spécialité, j'ai bien compris. Italien, qui apparemment avait un père d'origine française, ce serait le fils d'un confiseur, compositeur d'un confiseur français installé en Italie. Donc né à Rome, mort à Rome, maître de la polyphonie, et il a composé beaucoup de pièces pour des dizaines de voix réparties en 4 jusqu'à 12 chœurs. Donc sa messe à 8 chœurs, c'est pas son record, c'est... mais 8 chœurs, c'est combien par chœur? Ça ressemble à quoi? On peut se poser la question.
Oui, alors il y a 4 chanteurs par chœur qui sont à chaque fois associés avec un instrument de basse continue, que ce soit la contrebasse, la viole de gambe, un orgue positif, même une régale. Et puis après, il y a 2 chœurs principaux. Ça, ce sont pour les petits chœurs. Hein. Et dans la basilique de Rocamadour, ils seront répartis tout autour du public.
Ah oui.
Donc le public sera au cœur même de l'œuvre, et puis au centre du public, puisqu'il faut dire qu'à la basilique de Rocamadour, en fait, le public est en rond. Voilà. Autour de l'espace scénique.
Spatialisation bien particulière, qui est due effectivement à la configuration du lieu.
À la configuration du lieu, oui. Et les 2 chœurs principaux, eux, sont accompagnés avec un orchestre un peu plus complet. L'un qui est accompagné par les cuivres, cornets, sacs-boutes, et l'autre par les violons. Et évidemment, à chaque fois, la basse continue. Ça fait 50 musiciens en tout, pour une œuvre qui est vraiment... extrêmement touchante, et je pense que l'expérience sonore pour le public de pouvoir être au cœur même de cette polyphonie avec les chœurs qui se répondent, parce que 8 chœurs quand même, c'est extrêmement riche la musique, hein. Et c'est vrai que quand l'acoustique est trop ample, si on présente ça avec un ensemble qui fait face au public, on n'a pas du tout les mêmes sensations que quand on est spatialisé avec finalement les chœurs qui se répondent, les dialogues. Chacun aura une expérience propre de ce concert-là, puisqu'en fonction de l'endroit où on est placé, on aura pas la même intensité de chaque chœur, mais je crois qu'en fait c'était la volonté de Benevolo, finalement, quand on a 8 chœurs spatialisés comme ça, d'avoir une expérience de polyphonie plus que une expérience unique de polyphonie en fonction de l'endroit où on est placé dans le lieu du concert.
Hervé Niquet admire tellement Orazio Benevolo qu'il lui a consacré un CD qui a été enregistré chez Alpha Classics en 2018. On va en écouter un petit extrait de ce CD Benevolo du concert spirituel, le Kyrie Eleison de la Missa Sideus Pro Nobis. La Missa Sideus Pro Nobis, le Kyrie Eleison, œuvre d'oratio benevolo par le concert spirituel dirigé par son fondateur Hervé Niquet, que vous pourrez retrouver dimanche 23 août à 21h à la Basilique Saint-Sauveur, où ils donneront la messe à 8 heures du même oratio benevolo. Dernier grand concert, celui qui va clôturer le festival 2020 le mercredi 26 août, toujours à la Basilique Saint-Sauveur. Vous l'avez confié à ceux qui se sont produits en plein air l'année dernière, le 15 août. Et là, on retrouve Renaud Capuçon et les Lausanne Soloistes. On va pas rappeler qui est Renaud Capuçon, certainement le musicien français le plus médiatisé et le plus demandé du moment. En revanche, on va repréciser qui sont les musiciens qui forment cet ensemble des Lausanne Soloistes. Ce sont de très jeunes musiciens.
Oui, puisque ce sont des étudiants de la Haute École de Musique de Lausanne qui sont soit en fin de cursus, soit qui sont sortis il y a quelques années de la Haute École. Par exemple, dans les Lausanne Soloistes, il y a Raphaël Moreau, la sœur d'Edgar Moreau, d'ailleurs est primée aux Victoires de la Musique là, dans quelques semaines. C'est une volonté pédagogique de Renaud Capuçon d'avoir créé cet ensemble qui a un an, hein, puisqu'ils ont fait leur tournée inaugurale en février 2019.
Bon, en gros, depuis qu'il enseigne, puisqu'il enseigne à la Haute École de Musique de Lausanne.
Voilà,
à ce moment-là, l'idée a germé.
L'idée a germé, et puis de février 2019, tournée inaugurale de l'ensemble. Et c'est vrai que Renaud Capuçon n'était jamais venu à Rocamadour. Il m'a écrit 3 jours après...
Après
son concert, on en avait parlé ensemble, puisqu'on était à Rocamadour tous les deux, et je me disais, c'est dingue, il vient de m'écrire en me disant qu'il voulait revenir au festival, qu'il avait énormément aimé ce lieu, l'ambiance du festival. Et c'est vrai que quand on dirige un festival et qu'on a la joie d'avoir un artiste comme lui qui nous propose de revenir, ben je pense que... On peut pas refuser, et puis en même temps, j'étais très honoré, on va dire qu'on ait rempli le challenge de se dire, il joue sur les plus grandes salles du monde, et on a réussi à Rocamadour à ce qu'ils se disent, oui, ce festival, et j'ai envie d'y revenir, j'ai pas été mal accueilli, entre guillemets. C'est toujours un peu le stress quand on reçoit des grands artistes, de dire, est-ce qu'on va être à la hauteur de ces grandes salles qui les accueillent habituellement. En tout cas, moi, c'est un petit peu mon stress à chaque fois. Ça l'est de moins en moins, puisque le festival a bien grandi. Et en même temps, le programme qu'il m'a proposé m'a énormément intéressé, d'autant plus que c'est un programme que l'on propose donc dans la Basilique, donc qui va permettre de l'entendre dans un autre lieu que celui de cette année. Les 4 saisons de Vivaldi, donc une œuvre majeure, phare de l'histoire de la musique, et puis une œuvre, on va dire, qui va permettre, avec le nombre de Renaud Capuçon, d'attirer le public. Qui va permettre d'attirer le public, mais pour une raison, c'est l'autre œuvre de ce programme-là, puisque ce sont les Tabula Rasa d'Arvo Pärt, et que si on met les Tabula Rasa d'Arvo Pärt comme ça dans le festival, moi je sais que mon public,
il va pas adhérer forcément.
Il va pas forcément adhérer parce qu'il connaît pas le nom d'Arvo Pärt. On a quand même un public qui est, le public du festival de Rocamadour. Il y a beaucoup de Lotois qui composent le public du festival, et puis des touristes aussi évidemment. Mais les Lotois, ils ont pas l'habitude d'avoir des saisons de musique classique à proximité. On est à 2 heures de la moindre saison de musique classique. Et donc, ils connaissent Vivaldi, ils connaissent Bach, ils connaissent Mozart, mais Arvo Pärt, ils connaissent pas forcément, en tout cas pas suffisamment pour remplir la basilique. Et donc moi, je me dis, Renaud Capuçon, les 4 saisons de Vivaldi, génial, parce qu'ils vont venir découvrir, et j'espère que tout le monde aura un choc en entendant ces Tabula Rasa d'Arvo Pärt, parce que pour moi, c'est une œuvre absolument incroyable.
Oui, c'est le principe du cheval de Troie, c'est évident. Il faut faire ça, effectivement. C'est une bonne idée. Faire des concerts spécialisés de musique contemporaine, c'est pas toujours la bonne méthode pour
attirer les gens habilement.
Très bien, très bonne idée.
C'est pour ça que j'ai vraiment, tout pour moi a été réuni pour que cette soirée de clôture soit un très très grand moment d'émotion pour le public.
Voilà donc les 4 saisons de Vivaldi, la Tabula Rasa d'Arvo Pärt, en clôture du festival le 26 août à la Basilique Saint-Sauveur avec Renaud Capuçon et les Lausanne Soloistes. Voilà, on a fait le tour des grands rendez-vous de cette 15e édition, mais il y a beaucoup d'autres propositions. Il va y avoir ce que vous appelez des expériences musicales, et je pense en premier encore une nouveauté en 2020, il y a des concerts sous les étoiles. Alors attention, c'est une autre forme que le concert en plein air au pied de la cité médiévale. Ça va se passer où et dans quelles conditions ?
Oui, dans le festival, en tout, on a 30 concerts. Des concerts de 16h, des concerts de midi, et puis d'autres concerts du soir, puisqu'en fait, on a des concerts tous les jours et tous les soirs. Les concerts sous les étoiles, c'était une envie pour faire un peu rêver le public. Bon, à Rocamadour, on est au cœur du triangle noir, c'est-à-dire l'endroit de France où on voit le mieux les étoiles. Ça, c'est pour la voûte céleste, et puis au niveau de la géologie, on est dans le Causs du Quercy, qui est un peu un désert calcaire avec des petits chênes.
Ça a du mal à pousser, là.
Ça a du mal à pousser. voilà, il y a des cailloux. De l'autre côté du canyon de l'Alzou de Rocamadour, on a à 2 km, on a un dolmen avec une petite colline. Et puis moi, je me suis dit, bah, en fait, à 23h le soir, on met quelques chaises longues, de la musique vocale avec un ensemble qui s'appelle Climax. Hein, qui est un ensemble vraiment qui permet d'interpréter plein de choses. Au niveau vocal, ils ont un répertoire assez large, donc qui va permettre de proposer une playlist musicale, on va dire, qui porte à la méditation. Voilà, l'idée, c'est assez simple, hein, c'est que les gens écoutent de la musique en regardant le ciel étoilé, cette immensité lumineuse que l'on voit de notre cause du Quercy. C'est une petite expérience musicale, puis c'est quelque chose d'assez confidentiel, parce qu'évidemment, on ne va pas mettre 200 chaises longues, on est sur 50 personnes maximum. Ouais. Voilà. Mais en même temps, à 23h le soir, pour finir la journée du festival, c'est un moment de détente, on va dire. Voilà.
Ah, ça sera les mercredis 19 et jeudi 20 août à 23h, donc, dans ce lieu magnifique que pourront découvrir les festivaliers, ceux qui voudront jouer le jeu. Donc Climax, on les retrouvera aussi, j'ai vu, il y aura des animations au marché de Rocamadour à 10h et midi certains jours.
Alors c'est pas au marché de Rocamadour, ce sont sur les marchés autour de Rocamadour. C'est-à-dire Gramma, Souillac, Martel, Saint-Sauzie, des lieux comme ça, puisque le festival c'est aussi des manifestations gratuites. Hein, et puis ils participeront également à des concerts de 16h, deux concerts de 16h qui seront donnés à la chapelle de l'Hospitalet.
Très
joli lieu, qui est aussi intime puisqu'on a 80 places dans cette chapelle, qui est l'Hospitalet, c'est-à-dire l'hôpital, l'endroit où les pèlerins au Moyen-Âge qui venaient à Rocamadour s'arrêtaient, faisaient leur halte avant de rentrer sur la voie sainte, le grand escalier, et d'arriver au sanctuaire. Donc à cet endroit-là, il y avait l'hôpital qui est maintenant en ruine, et la petite chapelle, qui est avec une très belle acoustique.
Ah oui, belle acoustique, et où Anne Bertin-Hugo redonnera son récital lecture d'œuvres et de textes d'Hildegard von Bingen. Cette très belle chapelle de l'Hospitalet, donc en ouverture le 15 août et en clôture du festival le 26. Et puis je voulais qu'on dise un petit mot de la Sportel, la formation en résidence à Rocamadour, à laquelle vous appartenez d'ailleurs, et qui va se produire dans le cadre de dégustations croisées au château de Mercuès. Ce sera le 25 août à 18h30. Expliquez-nous un peu ça, c'est quoi ces dégustations croisées? C'est la musique et la gastronomie ensemble?
Oui, l'ensemble la Sportel, donc qui est en résidence permanente à Rocamadour, c'est un outil qu'on a créé pour nous permettre justement de développer des créations de programmes autour de la musique sacrée. Chaque année, ils se produisent évidemment dans le festival. La vocation de la Sportel, d'ailleurs, est d'aller aussi à d'autres endroits. Ils seront, par exemple, l'été prochain en résidence à la Cité de la Voix à Vézelay pendant une semaine. C'est vraiment une grande joie pour nous d'avoir été sélectionnés là-bas. Mais en ce qui concerne le festival, cette dégustation croisée, ça fait plusieurs années que l'on travaille pour nous sur la valorisation de notre terroir et de notre patrimoine. Ce que l'on entend par patrimoine, c'est le patrimoine bâti, le patrimoine naturel. Ça, on en a déjà parlé, la basilique, les concerts sous les étoiles, et aussi la gastronomie lotoise, qui est quand même assez fameuse, il faut le dire. Et l'idée avec le château de Mercuès, qui appartient à la maison Vigouroux, qui ont donc des vignes et qui sont producteurs de vin, l'idée c'était là aussi de proposer une soirée qui n'est pas ouverte à très, très grand monde, parce que c'est une soirée assez spéciale, où le public va pouvoir déguster un vin. L'idée c'est que ce vin qui va être dégusté va être à la fois sublimé par une création gastronomique par Julien Poiseau, donc qui est chef étoilé Michelin, et par l'ensemble de la Sportel, où on aura choisi une œuvre complètement en relation avec le vin. Tout est censé s'auto-embellir. Le vin et la musique, ça a toujours fait un très bon mélange, et c'est vrai que la musique classique, plus particulièrement, on n'a pas encore choisi tout le programme. On va vraiment travailler ça à la fin de l'hiver et au printemps. Et donc l'idée, vraiment, c'est de mêler l'intégralité des sens et des sentiments.
Ben voilà un programme qui va vieillir en fut de chaîne. Voilà. Il y aura aussi les habituels moments d'orgue, vous en avez parlé à midi, presque tous les jours sur le grand orgue de Rocamadour. Et cette année, deux organistes se produiront cette occasion, vous-même, Aymon Rollin, et puis un jeune musicien anglais, je crois, organiste anglais, Jeremiah Stephenson. C'est toujours des moments très agréables en milieu de journée. Voilà donc pour la belle et très dense programmation du Festival de Rocamadour 2001, le 15e du nom. Nous allons maintenant changer de registre en parlant d'opéra, mais d'opéra au cinéma. Turandot est retransmis en direct du Théâtre du Real de Madrid au CGR Blagnac ce dimanche 19 janvier à 18h, et Robert Pénavert tenait à nous présenter cette production. Robert, pourquoi ne faut-il pas rater cette retransmission de l'archi-connu opéra de Puccini?
Bien, donc nous allons faire ce qu'on appelle un grand écart. Bon, on se retrouve en fait au début du XXe siècle maintenant. Alors, Turandot finalement a beaucoup de succès, puisque je rappelle que Turandot était le spectacle d'ouverture des retransmissions 2019-2020 du Metropolitan, déjà opéra au mois d'octobre, dans la mise en scène pour le moins luxuriante de Franco Zeffirelli. Donc, cette fois-ci, c'est pas le Metropolitan bien sûr, c'est le Real de Madrid. Et c'est une nouvelle production que l'on doit à un grand homme de théâtre qui s'appelle Robert Wilson, mais pas de théâtre simplement lyrique, il est également du théâtre dramatique, bien évidemment. Très, très grand metteur en scène avec... Quand même, il y a des choses qui se reconnaissent facilement chez lui, c'est le côté japonisant de ses mises en scène. Quand on connaît, par exemple, sa Butterfly, qu'il a montée pour l'Opéra de Paris, il faut reconnaître que ça colle parfaitement. J'ai vu cette Butterfly et effectivement, c'était superbe, mais c'était Butterfly. Par contre, il y a quelques années auparavant, il avait monté une tétralogie au Châtelet qu'on pouvait regarder de manière extrêmement nuancée. Bon, mais c'est un peu loupé, quoi. Alors, évidemment, avec Turan, nous ne sommes pas à Tokyo, nous sommes à Pékin, mais ça fait rien. Il a monté une production, alors c'est pas un direct, c'est un enregistrement qui a été fait en novembre 2018, mais c'est une nouvelle production qui est extrêmement intéressante au point de vue gestique, au point de vue lumière. Évidemment, il n'y a pas beaucoup de décors, mais ça, c'est très classique avec ce metteur en scène, mais ça se laisse voir et c'est envoûtant finalement. Et puis il y a évidemment un cast, parce que quand on parle de Turandot, tout le monde...
C'est ce que les gens attendent.
Ce que les gens attendent, voilà. Évidemment, ce sont les trois rôles principaux. Et puis finalement, le rôle principal, c'est Turandot. Oui. Sauf qu'aujourd'hui, par la grâce d'un air, n'est-ce pas, je ne dirais pas lequel, si, je vous le dis quand même, c'est Nessun Dorma. Oui. Merci Pavarotti, merci tous les ténors de la planète, n'est-ce pas, d'avoir fait connaître Turandot avec cet air. Donc finalement, tout le monde demande, mais qui chante le Nessun Dorma? Bien, justement, raison de plus, Eric, pour aller le voir, parce que nous avons dans le rôle de Calaf, une espèce d'ovni, c'est un ténor américain qui s'appelle Grégory Koundé. Moi, je l'ai découvert à Nice, c'était en 80, il avait 34 ans, je crois, un âge comme ça, et il chantait Nadir des pêcheurs de perles, donc, c'est-à-dire le rôle typique du demi-caractère d'opéra comique français, bon, fait, etc. Et puis, il s'est développé un aigu assez impressionnant, puisqu'il est arrivé jusqu'au contrefa, donc résultat, les organisateurs de spectacles qui voulaient monter des Rossini, en particulier, Pesaro, par exemple, eh bien, l'ont invité pour chanter Sémiramide, pour chanter des rôles comme ça, et il a fait une carrière avec Guillaume Tell, bien évidemment avec les Puritains, où on allait le chercher plutôt sur sa quinte aiguë, et puis, crac, le pauvre en 1990, on diagnostique un cancer, et il est obligé d'arrêter pendant quelques années, et puis petit à petit, il est revenu, mais la voix avait énormément changé.
Oui,
alors,
oui, oui.
Évidemment, la quinte aiguë s'était transformée en tierce aiguë. Disons que maintenant, il est à l'aise jusqu'au contre-ré, mais enfin...
Au-delà, ça devient plus aléatoire.
Au-dessus, il n'y va plus, très clairement. En plus, si vous faites bien le compte, regardez, l'âge quand même a avancé. Et entre-temps, la voix a énormément évolué, s'est épaissie, est devenue le médium en particulier, a pris énormément d'ampleur.
Oui.
La projection est devenue très impressionnante. Il a un grave également extrêmement rond, puissant, bien ancré, bien appuyé, et il est devenu le grand ténor dramatique du jour. C'est stupéfiant parce que la voix est dans un état, je l'ai entendu à Peyrallade en direct il y a 2 ans, c'était à la chapelle du Carmel, mais on a vu le moment où il fallait sortir parce que tellement c'était puissant, c'était absolument incroyable. Donc évidemment il va faire un Calaf, mais complètement anthologique. Alors il est à noter que c'est un ténor, maintenant il chante les grands Berlioz, il chante les grands Verdi, il chante Sanson, je dis, il chante également les grands Meyerbeer, mais il s'est toujours tenu à l'écart de Wagner. Il a fait des propositions, je pense qu'aujourd'hui il ferait un Lohengrin somptueux, mais il ne veut pas aborder ce répertoire-là. Et donc il va être ce Calaf. Alors, quand ce serait, évidemment, il ne faut pas dire qu'il faut aller le voir que pour lui, parce que
oui,
bon, finalement le rôle...
Ça peut justifier.
Le rôle,
même,
en plus, ce n'est pas un rôle très brillant dramatiquement, il faut le reconnaître.
Non, non, non.
Et le rôle Calaf, il ne vaut pas dessous, oui, franchement, dramatiquement. Bon, alors, Saturandot, c'est une Suédoise qui s'appelle Irène Théorien. Elle aussi, c'est quelque chose d'assez stupéfiant. Elle chante Turandot pour se reposer, en fait, pour reposer sa voix. Parce qu'en fait, quand elle ne chante pas Turandot, c'est Brunhilde, c'est Isolde ou Electra. Elle ne sait pas faire autre chose. Bah, elle aussi, je ne dis pas qu'elle est entrée dans l'âge, donc c'est une dame, je ne dirais pas son âge, mais enfin, voilà, c'est extraordinaire. Bon, je ne sais pas comment ces voix sont fabriquées, c'est stupéfiant. Et puis la petite Liu, eh bien, c'est une des grandes normas de notre époque, ce qui quand même laisse à penser qu'elle risque de faire une Liu assez étonnante. Alors je suis en train de chercher son nom parce qu'elle est espagnole, elle s'appelle Yolanda Oyanet, l'une des 2 ou 3 grandes normas de notre époque, mais ce qui ne l'empêche pas de chanter chanter Don Carlo, de chanter Lucrèce Borgia, de chanter, voilà. C'est une belle cantiste en même temps. Donc ça aussi, c'est très intéressant.
Distribution de très haut niveau
pour un des grands opéras.
Belle cantiste du début du XXe siècle. Voilà, alors je voulais aussi qu'on annonce rapidement le prochain concert des Clés de Saint-Pierre qui a lieu ce lundi 20 janvier à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines. Il est sous-titré Couleur d'exil et son programme est constitué de quatuors à cordes qu'on entend très rarement dans les salles de concert, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y en a quatre qui en sont les compositeurs, Serge.
Oui, alors il y a le tout dernier, je vais commencer par lui, c'est Darius Milhaud.
C'est le plus connu sans doute du public français en tout cas, du public français.
Il y a également Pauline de Mitz qui est quand même connu, l'allemand Pauline de Mitz.
Je ne sais pas du grand public, je pense que Darius Milhaud ça doit dire plus que Pauline de Mitz.
Oui, absolument. Et puis il y a Eric Wolfgang Kongold, de l'Autrichien, donc, et le troisième...
Martinou.
Le tchèque Bohuslav Martinou, qui est un très grand compositeur, magnifique compositeur. Et donc, vraiment, c'est l'occasion d'entendre des œuvres rares qui ont en commun d'avoir été composées par des compositeurs juifs qui ont dû émigrer...
S'exiler.
Voilà, qui ont dû quitter l'Europe et partir pour les États-Unis, tous les quatre d'ailleurs, au moment de l'avènement du nazisme.
Alors, couleur d'exil, parce qu'effectivement, il y a l'exil au programme, mais les couleurs, c'est parce qu'il y a de la peinture.
Exactement, pour une fois, alors c'est la saison des 20 ans des Clés de Saint-Pierre qui fait qu'à chaque concert, il y a de la musique et puis un autre art qui est représenté. Alors on a eu diverses choses, on va en avoir d'autres, mais là, en l'occurrence, l'une des violonistes de l'Orchestre National du Capitole est en même temps artiste peintre. Et donc, en même temps que ses collègues joueront ses quatuors, elle peindra des tableaux qui d'ailleurs, je crois, seront proposés au public à la fin du concert.
Voilà.
Donc c'est vraiment très original.
Elle s'appelle Rachel Vormez.
Exactement, voilà. À la fois musicienne et peintre.
Voilà, il faut maintenant conclure cette émission parce que le temps passe vite. Merci Serge Chosy, merci Robert Pénavert d'en avoir été encore une fois les chroniqueurs éclairés. Merci beaucoup à Aymeran Rollin d'en avoir été l'invité d'honneur pour présenter la très belle programmation du prochain festival de Rocamadour, une 15e édition qui a lieu du 15 au 26 août. Beaucoup de grands noms, de grands musiciens sont encore annoncés cette année. Vous avez pu le constater, je vous invite à consulter le site du festival à l'adresse www.rocamadourfestival.com pour avoir tous les détails de cette programmation, les informations pratiques, les tarifs et bien sûr pour réserver et acheter vos places en ligne dès que la billetterie sera ouverte, c'est-à-dire maintenant, vous pouvez y aller. Je rappelle également les événements musicaux des jours à venir. Au Cégère de Blagnac, retransmission de Turandot, le célèbre opéra de Puccini, en direct du Théâtre Réal de Madrid ce dimanche 19 janvier à 18h. Vous pouvez vous renseigner et réserver vos places sur le site www.cgrcinema.fr. Le lendemain, lundi 20 janvier à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines, concert Couleur d'exil des Clés de Saint-Pierre avec un programme de quatuor à cordes de Korngold, Hindemith, Martinou et Darius Milhaud. Informations et réservations sur le site www.lesclésdesaintpierre.org. Et puis enfin, mardi 21 janvier à 18h30, récital du pianiste Guillaume Coppola au Musée des Abattoirs. À l'invitation de la Saison Bleue, il va jouer un très joli programme d'œuvres de Mompaou, Beethoven, Chopin, Debussy et Manuel de Falla encore lui, et vous pouvez vous renseigner, acheter et réserver vos places sur le site www.lasaisonbleue.toulouse.fr. Merci à Christophe Aubry d'avoir réalisé ce numéro dont le podcast est disponible et téléchargeable dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci encore de votre fidélité à cette émission et excellente semaine musicale à tous.